pour ce débat. Alors, Rakitala, comment expliquez-vous un peu ce qui s'est passé la semaine dernière à Bamako, un vaste rassemblement dans la rue pour exiger la démission du président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, alors que vous venez de remporter les dernières élections, les élections législatives?
Vous savez que l'année dernière, déjà, il y avait eu un vaste mouvement similaire pour le départ du Premier ministre Sumil Nguema. Et déjà, la couleur était annoncée à ce niveau-là. Et à l'issue de cela, il y a eu des tractations, le dialogue a été ouvert, à l'issue duquel il y a eu la signature de l'accord politique de gouvernance qui devait nous mener vers un certain nombre de choses et qui exigeait au préalable un dialogue national inclusif. Donc c'est dans cette lignée maintenant que les élections ont été organisées et c'est vrai, la majorité des partis politiques qui soutient le pouvoir détient aujourd'hui le maximum de voix à l'Assemblée nationale, mais vous savez aussi que le Mali est confronté à beaucoup de problèmes d'ordre structurel, des problèmes de sécurité, des problèmes de gouvernance comme dans tous les pays du monde. Alors j'explique ce vaste mouvement par le fait que certains ont voulu, en tout cas, profiter de tous ces problèmes pour mettre à exécution quelque chose déjà qu'ils avaient annoncé et même tenté l'année dernière. Et pour eux, certainement, c'était le moment propice de le faire. C'est vrai que il y a des mécontentements du côté des élections législatives, mais pour un débat, ce mécontentement ne doit pas s'expliquer à partir du moment où les principes démocratiques n'ont pas été respectés. On a vu beaucoup de partis politiques de la majorité et de l'opposition sur les mêmes listes constituer des alliances fondamentales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'estime que ce n'est pas une victoire de la majorité. C'est une victoire qui malheureusement n'honore pas la démocratie malienne et qui va nous mener tout simplement vers des problèmes encore d'ordre structurel.
D'accord. Alors, Baba Dakono, le Mali traverse une crise sécuritaire, comme le disait Rakitala tout à l'heure, mais aussi économique, hein, exacerbée un peu par la pandémie de Covid-19. Est-ce que c'est cela qui a favorisé ce qu'on a vu la semaine dernière ou peut-être qu'il y a eu d'autres facteurs?
Ok, merci Monsieur Dia. Effectivement, le Mali traverse une crise multiforme qui est institutionnelle. Ils sont passés le 5 juin un peu. Il y a des peurs qui ont été catalyseurs, à l'exemple des résultats définitifs proclamés par la Cour constitutionnelle. Mais il y a également, vous l'avez rappelé, la gestion du Covid-19 qui a été suivie de certaines mesures, comme des mesures restrictives, à l'exemple de l'État de France qui a fait un certain temps. Et cet État de France est intervenu dans un contexte de délestage. Donc, en réalité, il y a eu des facteurs qui ont été catalyseurs de l'événement du 5 juin. Mais au-delà de ces faits catalyseurs, il est important de rappeler que depuis quelques années, il y a une colère ambiante dans le pays, une colère ambiante qui est perceptible et qui s'est exprimée à plusieurs reprises. Elle s'est exprimée depuis 2017 à l'occasion de cette manifestation contre la religion constitutionnelle. À l'époque, quand on voyait en février 2020, également 2019, cette colère s'est à nouveau exprimée, puis en avril 2019, elle s'est à nouveau exprimée, telle que rappelée par Mme Rakitala tout à l'heure. Donc, il y a un vrai pays d'abondance.
D'accord. Alors, Bakary Sow, vous avez beaucoup travaillé sur la question sécuritaire au Mali. Le Mali qui fait déjà face donc à une situation très difficile dans le centre et le nord. La priorité pour la classe politique en général ne devrait-elle pas être l'unité plutôt que la confrontation aujourd'hui?
Merci beaucoup de votre invitation. Mais je salue aussi nos amis du Mali qui partagent avec nous ce plateau. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui, il faut le regarder sur tout le processus. La figure d'Iko, ce phénomène d'Iko qui est en train de monter au Mali, n'est que la résultante d'un long processus et qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'élite politique malienne qui se réfugie derrière le symbole de son propre échec. Il ne faut pas oublier ce qui s'est passé avant la manière dont Diko a été fabriqué comme figure emblématique. Il ne faut pas oublier non plus les accointances entre Ibeka aujourd'hui, qui est la victime de Diko, entre Ibeka et Mamou Diko, qui était parmi ce soutien dans le cadre de la coalition Sabaki 2012, qui l'a amené à sa victoire lors des élections. Il ne faut pas oublier non plus la manière dont toute la classe politique malienne à l'époque était derrière ce même Diko qui violait les droits des femmes, qui refusait que le code de la famille soit promulgué alors qu'il était voté par l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je crois que c'est la classe politique malienne dans son entièreté qui est en train de payer les prix d'une accointance entre politique et religion, entre des compromissions entre la classe politique et la sphère religieuse, qui a abouti aujourd'hui à fabriquer, à mettre devant une personnalité comme Diko, face à la faillite du discours politique, face au discrédit du discours politique et aux promesses non tenues, la jeunesse, qui ne sait plus où se donne la tête, et la société civile aussi, se range derrière cette figure qui cache bien son idéologie islamiste, mais incarne aujourd'hui des valeurs comme la bonne gouvernance, l'éthique, la moralité, alors que tout le monde connaît son agenda. Lui aussi, il est dans une forme de manipulation des symboles religieux pour des motifs politiques. Je crois que...
D'accord, si vous le permettez, on pourra revenir sur la figure même de Mahmoud Diko, mais je voulais demander à Rakitala, du côté du pouvoir, hein, les partisans du pouvoir, et un cadre a été créé pour, dit-on, aussi défendre les institutions à la suite des événements du 5 juin. Mais est-ce que la priorité ne devrait pas être plutôt que d'essayer d'écouter l'autre partie et de dialoguer? Ça pourrait être vu comme une manière de chercher la confrontation ou pas?
Vous savez, nous sommes respectueux des droits et des libertés fondamentales. Et ce cadre a été créé par le pouvoir en place. Ce cadre a été créé par des citoyens maliens qui sont certainement partisans de la défense des institutions et de l'ordre démocratique, l'ordre constitutionnel. Et c'est ce discours qui se tient actuellement. Ça peut être perçu comme quelque chose organisé par le pouvoir, une contre-marche. Non, ce sont d'honnêtes citoyens qui se sont exprimés, à l'image de ceux-là qui se sont exprimés aussi le 5 juin à travers ce meeting, qui élèvent la voix contre la destitution des institutions républicaines. Donc, ce n'est pas un fait du pouvoir.
D'accord. Alors, Mabou Dakono, le professeur Sambre faisait allusion tout à l'heure. Hein, Imam Mahmoud Diko est présent sur la scène politique malienne depuis très longtemps, mais il a décidé de créer carrément un mouvement politique. Est-ce qu'il faut s'en inquiéter?
Non, je pense que c'est peut-être plus convenable que l'imam Mahmoud Diko vienne directement sur la scène politique, parce que ce soit officiel, parce que c'était perceptible depuis de nombreuses années. Ça a été rappelé par Dr Bakary Sam tout à l'heure qu'il a participé activement à l'élection de l'actuel président en 2013, mais bien avant. Il était une des figures de proue de la contestation face à l'adoption du projet de modification du code de la famille ou d'adoption du code de la famille et des personnes. Donc c'est une personne qui a été très longtemps présente sur la scène politique, mais sans se réclamer directement de ce parrain politique-là. Donc,
faut-il s'inquiéter du fait qu'il s'implique carrément maintenant avec son mouvement politique et avec beaucoup d'autres partis politiques derrière lui maintenant?
Non, mais il ne faut pas s'inquiéter dans la mesure où c'est fait officiellement. Le danger aurait été qu'il y ait une connexion entre le milieu religieux et le milieu politique et que cela se fasse de façon sous-marine. Maintenant,
D'accord. Alors, Bakalistan, justement, que répondez-vous à ceux qui disent que les hommes religieux sont des citoyens, donc rien ne devrait les empêcher de faire de la politique? Peut-être dans le contexte malien, comment est-ce que vous analysez ça?
Oui, ils ont le droit de faire de la politique, mais par contre, ce qui, sur un plan éthique, peut inquiéter, c'est le fait de manipuler les symboles religieux pour des motifs politiques. Lorsqu'un dirigeant va entrer sur la scène politique par le soutien d'un candidat à la présidentielle, mais mobilise 200 associations islamiques et au nom de cela défend des valeurs. N'oublions pas que la contestation de Diko par rapport au code du statut personnel et sur les droits de femmes, etc., n'était pas faite sur un plan civique, c'était fait aussi bien en convoquant les valeurs culturelles maliennes, mais aussi les valeurs de l'islam. C'est-à-dire que c'est le mélange des genres. Ce qui gêne, c'est surtout les liaisons dangereuses entre la sphère du politique et du religieux. On a la même situation au Sénégal. Hein. Le Sénégal n'a pas de leçon à donner dans ce sens-là et d'autres pays. Mais le danger, c'est que les hommes politiques, de compromission en compromission, vont parfois à l'encontre des intérêts de leur pays. C'est cette nouvelle mode qui fait que les hommes politiques sont obligés d'aller chercher l'onction des hommes religieux, le Seigneur de Nioro, demain c'est Aïdara et après-demain c'est Diko. Je pense que ceci est nuisible à l'état de droit et je pense à la culture citoyenne qui fait que on va arriver vers une juxtaposition entre les sphères du religieux et du politique dans un pays qui a d'autres contradictions à gérer, notamment dans la question sécuritaire du Nord, mais aussi la question lancinante du Centre.
Oui, peut-être avant d'avoir des réactions de nos téléspectateurs sur Facebook, Madame Diarra Rakitala, vous avez un mot à dire sur cette influence des religions en politique, rapidement?
Oui, tout ce qui a été dit par mes frères, c'est tout à fait exact, parce que quand on regarde un peu l'évolution de la scène religieuse par rapport à la scène politique, c'est vrai que les politiques, de par cette gestion-là, ont quasiment joué. Mais il faudrait comprendre aussi que dans la distribution des rôles, notamment dans le cadre du social, une place a été donnée aux religieux, et les religieux devraient jouer un rôle complémentaire de celui des politiques pour que les pays, nos pays respectifs puissent aller de l'avant. Mais malheureusement, on n'a pas pu en tout cas mettre une frontière ou délimiter un peu le domaine afin que les politiques ne se font la politique uniquement et se battent sur ce terrain, et que surtout les religieux, la communauté religieuse ou les guides religieux se limitent à leur rôle religieux de défendre les valeurs sociales, valeurs éthiques et autres. Et d'ailleurs, pendant le dialogue national inclusif, si je ne me trompe, je pense que M. Dakono était là-bas, l'une des demandes du peuple souverain du Mali qui était là-bas, c'était vraiment de procéder à cette délimitation ou à cette limitation des attributions des guides religieux. Parce que vous savez que c'est quasiment un domaine qui a été formalisé au Mali à travers plusieurs structures dans le Haut Conseil islamique. Et donc une association des guides religieux, y compris les
chrétiens.
Donc il est grand pour nous de mettre un frein à ces dérives-là.
D'accord. Alors, en tout cas, nous avons beaucoup de réactions sur la page Facebook de VOA Afrique. On a par exemple Vassiki Bamba, Bichon, qui nous dit « Imam Diko, si vous voulez faire de la politique, alors enlevez votre titre d'imam. Appeler au soulèvement n'est pas votre rôle, même si le pays va mal. » Hassan Boulalé à Djibouti, il écrit « Les hommes politiques doivent savoir que les citoyens africains ont changé idéologiquement et les réseaux sociaux sont des espaces de liberté et d'émancipation. » Et puis Djuma Bin Moulaché à Elisabethville écrit « Le gouvernement malien devrait trouver une solution adéquate à ce problème le plus vite possible. » Merci de rester fidèle à VOA Afrique, Washington. quand on revient après une couche.
Aujourd'hui, voir ce qui se passe le vendredi passé le 5, ça montre qu'aujourd'hui, l'influence des hommes et des religieux dans la politique malienne est vraiment, aujourd'hui, on peut dire que c'est eux qui font plus de mobilisation que les hommes politiques.
C'est vrai, ils sont religieux, mais ils n'ont pas cette coloration seulement. Ils sont là pour la défense des intérêts des citoyens maliens.
Bien sûr, je suis inquiet de l'implication des hommes religieux dans la politique malienne, car la politique et la religion sont d'abord deux domaines différents et l'implication des leaders religieux dans la politique vont amener beaucoup d'instabilité dans le pays parce que ils vont se servir de leur influence pour mener à bien les politiques des hommes politiciens. Eux, à leur tour, vont se servir de la religion. Finalement, la politique va gâcher la crédibilité de la religion. Et moi, je pense bien que la politique doit rester différent et séparé de la religion. Les hommes religieux ne doivent pas s'impliquer dans la politique parce que ça ne va rien leur apporter, mais au contraire, ça va détruire leur crédibilité.
Les religieux aussi sont des citoyens comme les politiciens. Tout le monde s'est dit musulman, donc les religieux, ils ont le droit aussi de défendre leur pays. Si le pays va mal, surtout comme le nôtre, ils sont obligés de dire leur mot.
Moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Personnellement, je suis avec eux parce que ce pays a besoin de ses fils. Donc, il est vraiment temps qu'il nous faut un leader, un représentant, franchement, qui fait tout pour que ce pays se relève, parce que ça ne va pas du tout.
Merci beaucoup, Kassim. Alors, je rappelle nos invités dans ce Washington Forum de Bamako, Raki Talla, ancien ministre du Travail, membre de la majorité présidentielle, toujours de la capitale malienne, Baba Dakono, analyste à l'Observatoire citoyen sur la gouvernance et la sécurité, et à Dakar Bakary Samb, chercheur, directeur de Timbuktu Institute. Raki Talla, le groupe dit du 5 juin évoque la situation qui prévaut dans le centre et le nord, notamment dans le centre. Hein. On parle plus du centre maintenant que du nord, même si voilà, la situation est toujours préoccupante aussi au nord. Donc c'est cette situation qui, entre autres, qui a justifié cette mobilisation, dit-on. Comment le pouvoir entend rassurer les Maliens qu'ils comptent ramener la paix dans ces parties du pays?
Alors, quand vous regardez un peu la composition du groupe du 5 juin, vous vous rendrez compte que c'est un groupe qui est très hétéroclite et que la majeure partie des dirigeants de ce groupe, des leaders de ce groupe, étaient absentes au dialogue national inclus, à l'exception même de l'imam et de son mouvement. Avec les questions de paix et de sécurité au Mali ne datent pas d'aujourd'hui. En ce qui concerne le nord du pays, cette question-là date de bien avant les indépendances depuis le temps de l'OCRS. La deuxième des questions, celle relative à l'insécurité dans le centre et au massacre perpétré que nous regrettons, et nous rendons hommage aux victimes et à toutes les forces de sécurité et de défense du Mali. Cette question a été prise sous plusieurs angles, avec beaucoup de stratégies, notamment la dernière en la matière après le dialogue national inclusif, était la nomination du haut représentant du président de la République pour cette question.
Mais vous reconnaissez que la situation est loin de s'améliorer, n'est-ce pas?
La situation est loin de s'améliorer parce que c'est un problème qui est très complexe. Et il y a plusieurs fronts qui sont ouverts au Mali. Mais encore une fois, je vous rappelle que cette question et les autres questions de sécurité ont été abordées pendant le dialogue national inclusif. Et il y a eu des propositions qui ont été faites, des résolutions adoptées par ce dialogue national inclusif qui sont actuellement en cours d'exécution. Vous savez très bien qu'il est beaucoup plus facile de faire la guerre que de faire la paix, que c'est un processus qui va prendre son temps. Mais ce que le gouvernement peut faire pour rassurer les Maliens, c'est de continuer à déployer les forces de sécurité et de défense pour la défense de paisibles citoyens maliens dans ces zones, de diligenter, de continuer à diligenter l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger.
D'accord. Justement, M. Lacono, la classe politique malienne, pouvoir, opposition, a-t-elle du mal à parler d'une seule voix sur cette question? Parce que normalement, quand il y a une crise majeure, ce qu'ils appellent l'union sacrée, est-ce que pour ce cas-ci, c'est un peu plus difficile pour le Mali?
Oui, effectivement, il y a cette grande difficulté à avoir un strict minimum commun entre les acteurs politiques, mais cette fois-ci, on a appelé, c'est pas que les acteurs politiques, on a appelé que la présence de certains acteurs qui sont par ailleurs des religieux, mais il y a aussi des syndicats, il y a d'autres composantes de la société. Il faut savoir ce qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a trop de frustration, il y a trop de mécontentement, il y a trop de pièces. Et le discours contestateur est celui qui mobilise le plus dans le pays.
D'accord. Alors, Bakaristan, pour parler de dialogue, hein, c'est peut-être une chose que de dialoguer avec des regroupements politiques dûment constitués ou reconnus, mais faut-il aussi dialoguer avec des groupes armés, ou bien cela leur donne-t-il une certaine légitimité? Quelle est votre position sur la question du dialogue avec ce qu'on appelle les djihadistes?
Vous savez, le Mali a besoin d'un sursaut national pour dépasser ses contradictions, pour un pays qui a une riche tradition culturelle, qui a des ressorts énormes, qui a joué un rôle important dans l'histoire de ce continent. Un beau pays comme le Mali a besoin de ce sursaut et mérite, ce peuple malien mérite ce sursaut national. Mais je crois que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, c'est la cristallisation de toutes les crises. Il ne faut pas oublier que la discorde qui a mené à cette fronde de Diko a commencé lorsque Diko a commencé à fustiger la nomination de Soumaïlou au regard de son rôle dans le centre du Mali de par le passé. Aujourd'hui, le dialogue s'impose. Mais ce dialogue-là, je pense qu'on n'en a pas posé les préalables.
Avec qui?
Les Maliens, pas qu'aujourd'hui. Avec les terroristes, par exemple, avec les groupes terroristes, on n'a pas posé tous les préalables. Vous savez, les Maliens pourront vous le dire. Le fait d'appeler au dialogue dans le Nord, etc., ça augmenter potentiellement le nombre de groupes qui tous veulent être à la table. Parce que dans ces genres de situations, les gens se disent que si je ne suis pas autour de la table, c'est dans le menu. Et le fait, j'ai bien peur que ce dialogue qui a été mal préparé conduise à une forme de surenchère, une multiplication des groupes. Et on l'a vu d'ailleurs, il a été complètement consacré et il n'a pas joué la paix finalement. In fine, qui a gagné dans ce dialogue-là, on ne le sait pas, ce n'est pas le peuple malien. En tout cas, je crois que ce dialogue-là est légitime. Il faut le préparer avec des préalables.
D'accord. Alors nous arrivons au terme de ce Washington Forum. Merci à nos invités et à vous qui nous avez suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet voafrique.com. Je remercie également nos partenaires sur le continent. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.